Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Tiens, Marguerite Lefebvre. Bonjour Marguerite.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 6h.
4 week-ends, c'est énorme. Le mois de mars, c'est là où la collection elle commence à rentrer, les beaux jours qui commencent à arriver. C'est là où on travaille plus ou moins le mieux. Là, ça nous freine.
C'est parti pour 4 week-ends de confinement dans le Pas-de-Calais. Les magasins non essentiels doivent une nouvelle fois fermer leurs portes. Vous entendrez la colère des commerçants.
Les magasins sont fermés, les centres de vaccination en revanche restent ouverts. Le gouvernement appelle à la mobilisation générale et cela partout en France.
La banlieue de Lyon, une nouvelle fois secouée par des violences. Hier, un quartier de Rieux-la-Pape a été saccagé. 6 personnes ont été interpellées.
Et puis Tony Yoka s'est offert hier soir son premier titre chez les professionnels. Le boxeur français a remporté la ceinture européenne.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La mesure touche cette fois 1,5 million de personnes. Après Nice, après Dunkerque, c'est désormais tout le Pas-de-Calais qui est mis sous cloche. Le département est confiné tout le week-end.
Pendant 4 week-ends, les habitants ne pourront sortir de chez eux que pour des raisons essentielles. L'objectif est de faire baisser le taux d'incidence qui est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Retour donc des attestations dans le Pas-de-Calais, des sorties limitées à 1 heure et des magasins fermés. Maximilien Carlier a rencontré des commerçants exaspérés à Lens.
C'est le coup de grâce. Voici comment les commerçants évoquent ce troisième reconfinement. Ils ont baissé le rideau hier soir, désespérés par la durée de ces mesures de restriction.
4 week-ends, c'est énorme. Le mois de mars, c'est là où la collection elle commence à rentrer, les beaux jours qui commencent à arriver. C'est là où on travaille plus ou moins le mieux en entrée de collection. Là, bah, disons que ça nous freine.
Alors il va falloir s'adapter encore, ouvrir plus tôt, les lundis, pendant la pause déjeuner, mais à quoi bon, ça ne fera que limiter la casse.
Ça veut dire que le chiffre d'affaires va encore baisser, c'est dur pour nous payer les fournisseurs, les salariés, ainsi de suite, les loyers. On fait avec, c'est tout, on n'a pas le choix.
Et certains patrons, certains gérants se sentent clairement abandonnés.
On ne peut pas nous laisser tomber comme ça. J'en appelle un peu aux élus, aux préfets, de venir voir l'état des centres-villes et l'état aussi des salariés qui sont usés parce que bah, c'est toujours moins d'heures sup, c'est toujours des contrats arrêtés, c'est du chômage partiel, il y a ras-le-bol.
Des aides, c'est ce que demandent ces commerçants pour compenser les pertes liées à la fermeture le samedi. Le samedi, c'est parfois 30% de leur chiffre d'affaires. Lens, Maximilien Carlier, Europe 1.
Voilà, et ce confinement était-il indispensable pour 4 week-ends d'affilée? Oui, nous répondra Louis Lefranc, le préfet du Pas-de-Calais, notre invité à 7h40.
Dans le Pas-de-Calais, face à l'urgence, 10 000 doses supplémentaires de vaccins vont être acheminées. Partout en France, un coup d'accélérateur doit être donné ce week-end en matière de vaccination. Hier, on a recensé 250 000 injections. C'est un record depuis le début de la campagne.
Parmi les personnes appelées à se faire vacciner, il y a les soignants. Seul un tiers d'entre eux a pour l'instant répondu à cet appel. C'est trop peu, selon le ministre de la Santé, qui leur a envoyé une lettre hier. Mathieu Charrier.
La lettre est courte, une vingtaine de lignes, mais les mots sont très clairs. Après un premier paragraphe pour remercier les professionnels de santé mobilisés sans relâche, dit Olivier Véran, face à la plus grande pandémie de l'histoire contemporaine, le ministre de la Santé rentre dans le dur. Il leur rappelle qu'à ce jour, seulement 30% d'entre eux dans les établissements de santé sont vaccinés, 40% dans les EHPAD. Un chiffre encourageant, mais qui progresse trop peu, selon Olivier Véran, alors que les stocks de vaccins AstraZeneca sont là. Il y a ensuite cette injonction. Je vous le demande pour vous-même, votre entourage, les Français. Si vous n'êtes pas encore vacciné, faites-le rapidement. Il en va de notre sécurité collective. Alors le ministre ne menace pas encore de rendre cette vaccination pour les soignants obligatoire, même s'il n'a pas fermé la porte à cette éventualité. Mais il y a cette réalité. Le Covid est devenu la première maladie nosocomiale à l'hôpital. Ça veut dire qu'il y a des gens hospitalisés pour d'autres pathologies qui ressortent avec le Covid. Olivier Véran signe sa lettre bien confraternellement, soulignant au passage que lui-même est médecin et qu'il s'est déjà fait vacciner.
Alors la demande du ministre est claire, mais elle est accueillie plutôt froidement. Thierry Amouroux est le porte-parole du Syndicat national des infirmiers.
La méthode est assez ignoble de transformer les soignants en bouc émissaire pour masquer leur propre incompétence à gérer à la fois l'épidémie et la vaccination. Les soignants ne refusent pas de se vacciner, les soignants ne veulent pas AstraZeneca. Pourquoi ? Parce que AstraZeneca, il n'est pas assez efficace pour une population que sont les soignants. Comme les soignants sont très exposés, ils ont besoin d'un vaccin plus efficace que AstraZeneca.
Thierry Amourou, porte-parole du syndicat national des infirmiers. Sur le front du Covid, deux informations à l'étranger. La Belgique a décidé de prolonger l'interdiction des voyages non essentiels. Ces déplacements ne seront pas possibles avant le 18 avril. Et puis aux États-Unis, à l'inverse, on commence à assouplir les restrictions. Des salles de cinéma ont rouvert hier à New York. On vous en parlera dans le journal de 7h.
6h05, ce sont des scènes qui se répètent ces derniers jours. De nouvelles violences urbaines ont éclaté hier soir dans la banlieue de Lyon.
À Rieux-la-Pape, plusieurs dizaines de jeunes ont caillassé le quartier sensible des Alaniers. Plusieurs voitures ont été incendiées. Au moins 6 personnes ont été interpellées au terme d'un déchaînement de violence qui scandalise le maire Alexandre Vissandet.
C'était un commando punitif qui a essayé de tout détruire sur son passage et de montrer un petit peu les muscles pour terroriser les habitants du quartier. En l'espace d'une trentaine de minutes, une trente-quarantaine de jeunes individus, cagoulés bien évidemment, s'est regroupé au sein de la ville, ont démoli du matériel urbain, brûlé des voitures pour les mettre en plus en travers de la route et faire des barrages de feu. Ces derniers jours, nous avons fait des opérations anti-drogue et vous avez des voyous, des dealers qui veulent faire en sorte que les gens baissent les yeux. Et je tiens à leur dire que nous ne reculerons pas d'un centimètre carré et je le dis, il faut que la justice elle frappe vite et fort et que les sanctions soient à la hauteur de la colère que je peux ressentir. Et cette colère, je sais que c'est la même parmi les habitants de ma commune.
Alexandre Vissandet, maire de Rieux-la-Pape, avec Nicolas Feldman.
Cet appel à présent, Marguerite, appelle à la générosité de tous. Les Restos du Cœur sont en pleine collecte ce week-end.
Oui, alors que la crise économique fait bondir la demande d'aide alimentaire, des bénévoles seront présents dans de nombreux supermarchés jusqu'à demain. Vous pouvez leur donner des produits d'hygiène, des denrées non périssables. Voilà ce qu'ont déjà fait ces clients rencontrés à Paris par Zoé Pallier.
C'est la première année que je donne et cette année, je me suis dit que c'était vraiment une année particulière qui nécessitait qu'on s'engage tous. J'ai autour de moi des personnes qui se sont retrouvées sans travail du jour au lendemain, des restaurateurs notamment, je pense à eux.
J'ai donné des serviettes hygiéniques, c'est quand même quelque chose d'assez important, quelque chose d'assez gênant. Et de pouvoir au moins en donner quelques-unes, c'est pas grand-chose, mais je me dis si à peu près tout le monde donnait au moins un petit peu, ça serait quand même beaucoup plus intéressant.
Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut nous arriver à nous aussi, de se retrouver à la rue, de pas manger, pour aider comme on peut, voilà.
Vous recevez un petit papier à l'entrée qui vous donne la liste de ce qui pourrait les intéresser. J'ai fait le choix de donner des lingettes pour les bébés, petits pots pour les bébés. Je suis très contente d'avoir fait mes courses ce jour-là.
Et en pleine crise économique, voilà une annonce qui a plongé tout un bassin d'emplois dans l'inquiétude. L'équipementier automobile Bosch va supprimer 750 emplois dans son usine de Rodez, dans l'Aveyron, Olivier Samin.
Le groupe Bosch réaffirme sa volonté de maintenir l'activité industrielle du site et souhaite le faire évoluer dans les 6 prochaines années pour assurer son avenir. Voilà ce que disait hier soir la direction du groupe. Les syndicats ont du mal à y croire, rappelant l'accord de transition que 3 d'entre eux avaient signé en 2018. Accord qui prévoyait entre autres des efforts des salariés sur leur RTT et leur prime d'intéressement, avec en contrepartie la promesse par l'entreprise de plusieurs millions d'euros d'investissement pour moderniser les lignes de production et financer une diversification vers d'autres activités que le diesel. Délégué sud de l'usine, Jean-Pierre Cabrol avait signé cet accord.
Avec tous les engagements que les salariés avaient pris pour faire des efforts et donner un avenir à ce site, on s'était donné du temps et on voit que la direction nous abandonne et on est vraiment écœurés là.
Certes, les efforts de diversification n'ont pas encore porté tous leurs fruits, reconnaît la direction, qui est persuadée malgré tout que c'est la voie à suivre pour sécuriser l'emploi des 500 salariés qui resteront dans l'usine lorsque les 750 suppressions d'emplois annoncées hier auront été mises en œuvre.
Olivier Samin, et pourtant en 2018, 3 syndicats, dont la CFDT, avaient passé un accord avec des contreparties entre la direction et les salariés. 3 syndicats, dont la CFDT. Le patron de la CFDT, Laurent Berger, sera mon invité tout à l'heure à 8h15. 6h08, ce sera l'un des grands moments de cette matinée. En Irak, le pape François doit rencontrer l'ayatollah al-Sistani. C'est le plus haut dignitaire chiite du pays.
La rencontre sera en effet historique. D'abord parce que jamais un pape n'avait foulé le sol irakien. Et puis parce que l'ayatollah n'a pas pour habitude de recevoir chez lui à Najaf. Il fait un geste envers le pape François. Jean-Sébastien Soldani est en Irak pour Europe 1.
Ali Sistani n'est pas homme à se montrer devant les caméras, même ses fidèles le voient rarement. La rencontre se fera donc en tête à tête pour se parler franchement, car François espère l'inclure dans ses discussions avec les religieux sunnites. Mais ça prendra du temps, confie un membre de la délégation. Ali Sistani n'est pas du genre à se laisser apprivoiser au premier regard, même s'il devrait faire une entorse à ses habitudes. En temps normal, il reste assis lorsqu'il reçoit. Ses proches laissent entendre qu'il pourrait se lever. Au-delà des gestes et du mystère, le pape François soigne la symbolique de cette rencontre.
La présence très ancienne des chrétiens sur cette terre, leur participation à la vie publique témoignera qu'un sain pluralisme religieux, ethnique et culturel peut contribuer à la prospérité et à l'harmonie du pays.
Message très politique de tolérance, il s'agit là d'encourager le plus possible les chrétiens qui ont fui le pays à revenir. Avec ce signal, l'Irak est un pays sûr, prêt à vous accueillir à nouveau. Erbil, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
La Nouvelle-Calédonie est en alerte cyclonique. Niran et ses rafales à plus de 250 km/h devraient toucher Nouméa dans les toutes prochaines heures.
On passe au sport, Marguerite, avec de la boxe ce matin. Tony Yoka a réussi son pari.
Et il s'est offert hier soir son tout premier titre mondial. C'est la ceinture symbolique de l'Union européenne, mais qui est importante pour la suite de sa carrière. Le champion olympique de Rio rêve désormais d'un top 10 mondial.
Le plaisir d'avoir une première ceinture, de pouvoir vraiment marquer la première étape de la conquête. Ça a été long, mais il fallait s'y attendre. Il est rapide, il bouge bien. Forcément qu'il n'avait pas essayé de faire l'épreuve de force. Au fur et à mesure des rounds, j'ai vu qu'il essayait plus de survivre que de gagner techniquement. Maintenant, voilà, j'ai pas voulu lâcher l'affaire jusqu'à la fin. Je suis resté concentré pour arrêter le combat, quoi. Voilà, je suis de mieux en mieux classé. Et d'ici septembre, on aimerait un top 10 mondial pour pouvoir avancer sur la voie d'un championnat du monde.
Tony Yoka avec Loïc Folio. En football, Boulogne-sur-Mer et Toulouse se sont qualifiés hier soir pour les 8e de finale de la Coupe de France. Ce soir, notez qu'il y aura 9 rencontres, dont le 16e de finale entre Brest et le PSG.
Enfin, c'est une étoile qui s'est éteinte hier. On a appris le décès du danseur Patrick Dupont.
Ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris, il est décédé d'une maladie foudroyante selon ses proches. Patrick Dupont avait 61 ans, lui qui avait passé sa vie a bousculé les codes, Diane Chénouda.
L'enfant terrible de la danse a travaillé avec les plus grands, Nourieff, Béjart, Roland Petit. À 21 ans, c'est la consécration. Il est nommé danseur étoile. Il a tout d'une star, beauté, charisme et son style félin. Puis il devient patron de la danse à l'Opéra de Paris, mais ça se termine mal. Il sera licencié pour indiscipline. Et en 2000, il est victime d'un grave accident de la route qui a failli lui coûter la vie.
On m'avait dit marcher peut-être, mais danser jamais. Et ma première réaction, c'était de dire non, non, je n'accepte pas. J'ai demandé de la musique, on m'a apporté un petit poste de radio. C'était le Boléro de Ravel, un clin d'œil de Maurice Béjart dans ma chambre d'hôpital. Et j'ai su à ce moment-là que j'allais redanser, en fait. C'est magique, c'est une histoire d'un rêve.
Ces dernières années, Patrick Dupont vivait à Soissons. Il montait des spectacles de danse, classique et orientale. Plaire, séduire, divertir, enchanter. J'ai l'impression de n'avoir jamais vécu que pour cela, disait-il.
Diane Chénouda pour cet hommage à Patrick Dupont. Merci beaucoup Marguerite Lefebvre. À tout à l'heure pour le journal de 7h.